tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette, chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Bonjour à tous. Il y a presque un an, jour pour jour, s'est tenue à la Friche Belle de Mai une journée de discussion qui a eu pour thème ville, nature, Marseille entre deux, Marseille entre elles deux. C'était entre autres organisé par le groupe Dune et nous avions fait une émission de synthèse de cette journée de discussion. Et bien voilà, il y a maintenant quelques jours, c'était le 27 novembre 2014, deuxième acte de cette journée de discussion. Cette fois-ci, il avait pour titre « Ville, nature, on défriche, allégresse, désillusion et résilience ». À cette journée de discussion était présent Stéphane Henrault, qui est architecte et enseignant à l'école d'architecture de Marseille, Bernard Misrachi, qui est artiste du groupe Dune, et Thierry Tatoni, qui est écologue à l'université Aix-Marseille. Ils sont avec nous dans les studios, bonjour à vous.
Bonjour.
C'est très beau ce bonjour en chœur, à l'unisson.
Au bout d'un an, on est en harmonie, c'est grave, c'est inquiétant.
Mais justement, j'imagine que ces journées de discussion, c'était aussi des moments de disharmonie entre vous.
Bah, c'est le but, mais sans considérer la disharmonie vraiment comme une disharmonie, mais simplement une complexité qui existe.
Disharmonie, Thierry Tatoni ?
De moins en moins, j'ai l'impression, parce que on partage quand même une sorte de même ambition et de même idéal de ce qu'on attend des relations homme-nature transposées à la ville.
Stéphane Henrault, harmonie, disharmonie ?
Disharmonie, parce qu'on ne parle pas du même point de vue. Chacun, et notamment les invités de cette journée. Mais harmonie à la fin du compte, parce qu'effectivement, on trouve des terrains d'entente et de reconnaissance. Quoi.
Alors, je veux dire sympathie plutôt que qu'harmonie, parce que sympathie, c'est comme des cordes de sympathie qui vibrent en même temps. Quoi.
Alors, j'ai cru comprendre que la loi Allure, cette loi qui limite l'étalement urbain, a été un des enjeux de la discussion de cette journée du 27 novembre. Qui veut en dire quelques mots sur cette loi Allure qui, d'une certaine manière, invite à densifier la ville, Stéphane Henrault ?
Alors oui, c'était un point d'entrée, effectivement. En fait, la loi Allure, elle propose de densifier la ville existante plutôt que de l'étendre. Le foncier est rare. Quand on étend la ville, on consomme du territoire naturel, agricole, et on crée des difficultés pour ceux qui habitent de plus en plus loin à se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail. La loi Allure, donc, elle dit « Construisons là où il y a déjà des constructions, densifions, montons en hauteur, transformons les jardins en lieu de construction de nouvelles maisons. » Mais à la fin du compte, ça pose une vraie question. Si on densifie, quelle est la manière dont on préserve, maintient ou valorise le milieu naturel qui est déjà en ville, qui est déjà dans les jardins du pavillonnaire, qui est déjà dans les espaces interstitiels des centres-villes? Et cette question-là, la loi Allure ne la pose pas. Donc l'entrée en matière de notre journée, ça a été de dire: certes, densifions, c'est mieux que d'étaler, mais où est la place de la nature dans ce processus et comment est-ce qu'on la rend pérenne ?
Bernard Misrachi, je sais votre intérêt, votre attention à ces espaces en friche dans les villes non affectées, non déterminées. Est-ce que là, pour vous, cette invitation à la densification, ce n'est pas, d'une certaine manière, remettre en cause ou en tout cas venir justement toucher ces espaces friches, non affectées, encore existants dans les villes et particulièrement à Marseille ?
Une question compliquée. Les friches n'ont pas vocation à rester des friches, mais elles posent la question de l'espace dans le paysage urbain. Et donc c'est naturellement que quand on appréhende la question de l'évolution du paysage urbain, on retrouve les mêmes questions de l'espace qu'on trouve dans les friches. Et la nature avec, parce que la nature est présente dans les friches et qu'on la souhaite présente aussi dans les nouveaux espaces urbains.
Donc du coup, par rapport à cette densification,
oui. Ben, pour moi, la densification, j'ai toujours aimé les villes denses. J'ai pas aimé les villes peu denses. Je trouve que ce qui fait l'attrait d'une ville, c'est sa densité, c'est le mouvement. Souvent, quand une ville a pas de densité et peu de mouvement, on la compare beaucoup à une ville un peu morte, quoi. Donc, la densité, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui caractérise assez nettement ce qui fait une ville.
Parce qu'il y avait une intervention d'une personne qui a parlé du tiers foncier, qui a fait une thèse hein, sur cette question du tiers foncier. Je ne sais pas si je me souviens de son prénom, si je retrouve.
Marion Serre,
et qui parlait justement des enjeux par rapport au tiers foncier. Et je crois savoir que le tiers foncier, c'est donc ces espaces plus ou moins en friche aujourd'hui dans les villes.
Stéphane Henrot. Alors, il est vrai que tous ces lieux où la nature en ville se réinstalle sont bien souvent des endroits où le statut foncier ne correspond pas à l'usage qui en est fait. Et ça permet précisément à d'autres choses de se passer que ce qui se passe habituellement sur un foncier bien identifié, où l'on construit, où on aménage un espace public définitif. Donc ce tiers foncier, que d'autres peuvent appeler tiers paysage, comme Gilles Clément par exemple, il est intéressant à reconnaître. Alors pour certains, parce que ça crée des ressources foncières pour faire de l'immobilier, et pour d'autres, parce que ça permet effectivement d'entrer dans des logiques d'appropriation différentes qui ne correspondraient pas à ce que la ville habituellement fait de son foncier.
Il y avait comme intervenant le collectif ETC aussi dans cette journée de discussion. Il y a quelques semaines, dans le quartier de la Plaine à Marseille, il y a eu un projet de construction d'une résidence dans un espace qui était depuis de nombreuses années laissé en friche. Et laissé en friche, y compris par les habitants du quartier. Et puis dès que ce projet a émergé, les habitants se sont mis à s'approprier cet espace pour en faire des jardins. Mais en fait, sans ce projet immobilier, ils n'auraient sans doute pas fait le jardin. Ils l'auraient laissé en espace friche. Je trouve là quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que là, comme si la transformation de cette friche en jardin était en réaction à un espace, au projet immobilier. Donc qu'en fait, cet espace-là était plutôt perçu d'abord comme un endroit, encore une fois, d'indéterminé, de non-appropriation. Alors est-ce que tous les espaces doivent être appropriés dans la ville ?
Alors, c'est une vraie question.
Il y a plusieurs réponses aussi à ça.
Ouais.
Parce
oui,
que
oui.
Vas-y.
Non, c'est une vraie question. L'appropriation, est-ce qu'elle est en adéquation avec le propriétaire ? Cet espace dont vous parlez, il a peut-être, je le connais mal, mais il a peut-être été longtemps perçu comme un espace, une aération, dont personne n'était vraiment propriétaire, dont personne se souciait. Le fait que le propriétaire décide d'en faire autre chose, donc prive ceux qui l'habitaient à son voisinage de l'utiliser ou de le percevoir comme un espace libre, les a mobilisés pour questionner son devenir, autrement que sur la logique pure de la densification ou de la construction.
Bernard Mitraki.
Non, moi je trouve ça à voir avec ce qu'on appelle la culture de l'urbanité. C'est ce rapport à l'espace de l'habitant qui fait qu'il est attiré ou pas, il regarde, il considère un espace ou pas en fonction qu'il est ordonné ou pas très ordonné ou totalement délaissé. Et que jusqu'à présent, il y avait quand même une grande incapacité à habiter les lieux délaissés parce qu'ils ont perdu toute fonction et donc on n'imagine pas quoi en faire. Et c'est là que je trouve le rôle des écologues associés aux architectes et aux artistes permet de porter un regard aussi sur ces espaces et faire des propositions justement d'habiter différemment la ville en habitant y compris ces espaces délaissés.
Bon alors ils en ont fait un jardin, mais Thierry Tatoni, cet écologue, et vous diriez oui bon ils en font un jardin, c'est très bien, mais ça changera pas grand chose à la biodiversité de la ville.
Oui je dirais ça, mais je dirais, en gros, c'est leur problème. C'est leur problème parce que le discours que j'essayais de véhiculer justement lors de ces deuxièmes journées, avec un petit peu de provocation, c'est de dire que la ville, c'est une histoire d'homme. C'est pour ça que je laisse parler mes collègues. Mais c'est une histoire d'homme avec un H majuscule, bien sûr. Dans la mesure où la ville, c'est la niche de l'espèce humaine, il faut vraiment l'assumer comme ça. Après qu'on fasse une friche, un jardin ou un immeuble, quelque part, pour l'écologue, c'est pas mon problème. En revanche, mon problème, c'est comment on peut accompagner avec toute la science écologique pour construire une ville, pour penser une ville qui soit plus vivable pour l'espèce humaine. Et je pense que là, mine de rien, l'écologie peut apporter sa pierre à l'édifice.
Non, mais que en tant qu'écologue, effectivement, c'est sans doute pas votre problème. Mais tout de même, en tant qu'écologue, vous pouvez vous poser la question de savoir si plus de jardins dans les villes, plus d'espaces verts dans les villes, est-ce que ça participe ou pas à la biodiversité ?
Alors c'est là que je me suis fait pas mal d'amis le jour du colloque. Il faut surtout pas compter sur les espaces verts urbains pour sauver la biodiversité. Là, on ferait une erreur terrible, parce que là, comme on l'a souligné lors du colloque, c'est comme si on faisait un chèque en blanc pour tous les aménageurs et pour tout urbaniser, si demain on arrive à montrer que la biodiversité se porte très bien en ville, ce qui n'est pas du tout le cas. Dans ce cadre, la loi Allure, pour un écologue, on ne peut au départ que l'applaudir, en disant la première cause de disparition des espèces, c'est essentiellement la disparition des habitats naturels. Le fait qu'on arrête de grignoter ces habitats naturels et qu'on densifie ce qui a déjà artificialisé, ça ne peut faire que du bien pour la biodiversité. Le problème, c'est que comment arriver tout de même à faire des villes qui soient vivables. Ça, c'est très important.
Oui, parce que là, vous entendez, on aurait le sentiment que finalement, là où les deux journées de discussion cherchent à entremêler ville et nature, vous vous renvoyez d'un côté, il y a la nature aux portes des villes et puis il y a la ville.
Et c'est là qu'après, toujours pareil, on balance un scoop, puis après on revient sur ce scoop pour arriver à nuancer. Mais le premier message, il passe. La ville, c'est pas bien pour la nature. Point. Ça, il faut l'enregistrer. Mais bien sûr, on peut faire des villes qui soient de plus en plus biodiversité compatibles. Et on peut faire des villes où on va commencer à faire passer d'autres notions sur la relation homme-nature. Et c'est dans les villes que, majoritairement, doit se faire l'éducation à l'écologie, l'éducation à la biodiversité. Ça aussi, ça peut surprendre. On a toujours l'impression qu'il faut que les gens aillent à tout prix dans la colline, dans la campagne, pour comprendre ce qu'est la biodiversité. Certes, ça marcherait bien, mais il ne faut pas se leurrer, l'essentiel de la population humaine se situe dans les villes. Donc si on veut commencer à changer la relation homme-nature, c'est au cœur des villes qu'il faut le faire. Et c'est là qu'on doit travailler avec les architectes, les artistes, tous ceux qui s'intéressent à d'autres façons de penser la ville, pour essayer d'améliorer ces relations-là.
Donc ça veut dire, finalement, nature sauvage d'un côté et rapport de l'homme à la nature de l'autre dans la ville.
Ça serait un petit peu comme ça. Pour petit à petit faire tomber cette opposition sauvage-humain, faire prendre conscience que l'humain fait partie aussi au départ du sauvage, et simplement il a pris un petit peu notre trajectoire liée à sa capacité, à ses capacités intellectuelles.
Bernard, vous n'auriez pas envie d'aller faire des projets, moi je ne sais pas, moi dans le parc national des Calanques ?
En fait, à une époque, on était tellement urbain qu'on s'est dit il faut qu'on aille à la campagne pour voir comment on peut. Et on faisait des spectacles encore. On avait fait un duo qui s'appelait Le Point de vue de la vache. On avait été passer une semaine dans une ferme avec des caméras et des magnétophones. Et ça avait été assez. Alors d'une part, moi j'aimais toujours beaucoup la façon dont les animaux. On avait souvent mis. Enfin, on sort un peu du sujet, mais on avait souvent mis des images d'animaux dans nos spectacles parce que j'aimais beaucoup la façon dont les animaux pouvaient se trouver en situation de regarder l'être humain. Et là, en l'occurrence, on avait mis des vaches qui nous regardaient danser. Et on aimait bien cette remise en cause par l'animal de la condition humaine.
Quand il s'agissait de chanter, il se faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ses gais refrains. Des carottes puis des navots, venez voir comme ils sont beaux. Ah, oh, on en a des légumes. Des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah, oh, oui, on en a des beaux choux. Des patates puis des tomates, on en a des roux, des vertes. Il commence à chanter, venez voir mes échalotes, seulement qu'à 10 sous là-bas, des radis puis de la salade, des patates puis de la rhubarbe, j'ai du vrai sirop d'arabe fait avec la cassonade. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux, ah oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des vertes. Du haut pareil, le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. Oh, on a des beaux cocons, oh, on en a pour tout le monde, il y en a pas dans le quartier. Qu'a des beaux
bon, la nature en ville, ce n'est pas que le potager. Thierry, Tatani.
C'est une première approche, mais bien sûr, le potager, c'est quand même une forme d'artificialisation assez importante du milieu naturel. Il y a un avantage dans le potager, c'est que quand même, on s'inscrit dans... On apprend les relations à la nature. Lorsqu'on fait un potager, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de la terre, il faut qu'il y ait un minimum de soleil. Et puis, il faut connaître quelques principes sur la façon dont, la façon de vivre des plantes. Et c'est vrai que c'est déjà une première approche. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment qu'on réapprenne à s'inscrire dans une enveloppe un petit peu plus naturelle. Et pourquoi pas passer par le potager, ça ne me choque pas du tout.
Stéphane et Bernard, comment vous avez réagi à ce coup de tonnerre de Thierry Tatenet qui dit « N'espérez rien du côté de la nature en ville pour sauver la biodiversité. Surtout, n'espérez rien de ce côté-là. » Stéphane ?
Oui.
Alors,
non, on l'a pas chassé, en fait. On lui a demandé des explications. Ouais. Parce qu'effectivement, dans la journée, il se faisait taper dessus par tout le monde. Et il a fini par nous avouer la vraie raison de sa posture un peu radicale. C'est qu'au fond, la nature en elle-même, et dans la manière dont on peut l'apercevoir hors des villes, elle est fragile. Et dès lors qu'un milieu ou un écosystème hors d'une ville peut faire l'objet de convoitises, eh bien on met en péril quelque chose qui n'a peu de ressources par lui-même pour résister à cette pression de la ville, à cette pression de l'argent, on va dire, qui a besoin de foncier pour se construire. Voilà, alors moi j'ai compris la position de Thierry comme étant radicale de ce point de vue, quitte à dire que finalement la nature n'a pas d'importance en ville. Mais en même temps, sa position, elle est amendée très, très fermement parce que, au regard de l'éducation, comme il l'a dit, mais aussi parce que l'homme est un animal qui a besoin de cette nature, même si elle n'est pas, à proprement parler, naturelle, au sens d'un biotope, mais son propre milieu s'appuie sur ce dont on a le désir aussi, c'est de voir des arbres, de voir de la végétation, d'avoir des odeurs, d'être dans un monde qui ne raconte pas seulement la voiture, le mouvement, l'économie, le commerce.
Bernard ?
Oui, qu'est-ce que j'allais ajouter ? J'allais ajouter que finalement, on trouve, ça permet de préciser en fait le rôle de la nature, c'est-à-dire effectivement... Aujourd'hui, la mode est à la biodiversité. C'est super séduisant de se dire je vais sauver la biodiversité en plantant 3 courgettes en plein centre-ville. Mais en fait, ce qu'il faut, la réalité, c'est que on a besoin de la nature en ville, non pas pour sauver la biodiversité, mais juste pour la qualité de la vie, et que la nature a beaucoup de choses à apporter dans la qualité de l'espace public et de l'espace habité. C'est une nature qui a toujours été, domestiquée en ville, et simplement, je crois que les conditions de sa domestication, peut-être qu'on va pouvoir, à travers ces moments de réflexion, apporter un peu plus d'intelligence dans la façon de domestiquer la nature en ville. Mais effectivement, c'est pas... Par contre, ce qui est évident aussi, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est que la ville, c'est le lieu où on va peut-être sauver la biodiversité, mais pas en plantant des plantes, mais en faisant la médiation de cette biodiversité.
C'est-à-dire entretenir un rapport avec elle.
En mettant plus d'intelligence dans la manière de vivre avec la nature en ville, on va mieux comprendre les enjeux de la biodiversité en dehors de la ville, me semble-t-il.
Thierry,
c'était la première partie, c'est ça. Et puis dans ma position un petit peu radicale, c'était aussi pour un petit peu exploser les limites et donner beaucoup plus de champ aux créateurs. Ne pas qu'on pense une ville par rapport à des ambitions artistiques, par rapport à des ambitions architecturales, par rapport à des ambitions de qualité de cadre de vie, mais qu'on ne pense pas une ville pour la biodiversité. En revanche, qu'on se serve au sein de la ville de la biodiversité pour donner libre cours à tous les esprits créatifs, j'aimerais qu'on aille vers là. Que bien souvent, l'écologie apparaît comme une sorte de contrainte, de carcan, et surtout de bien-pensant dans lequel il faut absolument aller, sinon on est complètement à côté de la plaque. Ça, il y en a ras-le-bol. Il faut savoir où on est par rapport à cette nature, comment on se positionne, mais il faut savoir aussi que l'homme a le droit de s'exprimer de toutes ses façons, à condition, bien sûr, qu'il respecte quelques bases sur la qualité des relations de nature. Et c'est en ça qu'en tant qu'écologue, je ne vais rien lâcher et je vais continuer à collaborer avec mes collègues.
Mais tout de même, en disant ce que vous dites, vous retirez un argument de poids à ceux qui défendent au quotidien la question de réinjecter de la nature en ville. C'est-à-dire, leur argument de poids, c'est aujourd'hui la biodiversité.
Non, au contraire, je leur dis faites-le, mais faites-le pour que ça fasse du bien à l'espèce humaine. Parce qu'au mieux, on saura au niveau être humain, et de plus en plus on sait que pour être bien, on a besoin de cette qualité de relation avec la nature.
Quand vous dites bien, alors là je pense à tous les mouvements du buen vivir, c'est-à-dire tous ces mouvements qui à un moment donné se posent la question de ce que c'est que bien vivre. Et en fait, du coup, comme si à un moment donné votre journée de discussion était moins sur les enjeux de préservation d'un côté de la nature ou destruction de la nature, mais plutôt sur comment bien vivre en ville.
Non, mais c'est de considérer la relation qu'il y a entre ces choses. On peut pas séparer les choses. Je veux dire, est-ce qu'on peut bien vivre et massacrer la biodiversité? Ça n'aurait plus de sens aujourd'hui.
On est typiquement dans le bien-être tel qu'il a été véhiculé par le Millennium Ecosystem Assessment, c'est-à-dire le bien-être qui repose pas sur la XM tablette ou la XM version d'un smartphone. C'est le bien-être qui passe par le plaisir de se retrouver à l'ombre d'un arbre, le plaisir de discuter avec des collègues ou de boire l'apéro sous une treille, quoi, c'est ça.
Et tout à l'heure, Bernard, avant de commencer l'émission, posait la question, est-ce que le jeu de pétanque, est-ce que faire une partie de pétanque participe à la biodiversité? En fait, d'une certaine manière...
À l'ombre d'un micoucoulier.
On pourrait aller très loin et se dire que la biodiversité, eh bien, c'est la question aussi du bien-vivre, que sans doute qu'une espèce peut mourir par stress, par exemple.
Oui, complètement. Un stress mal...
Hydrique.
Un stress hydrique. Alors, autour du jeu de pétanque, c'est limite. si on veut rester dans la... Il faut plutôt inviter à boire plutôt de l'eau. Mais oui, on est là. C'est comment l'espèce humaine est une espèce animale sur certains aspects comme les autres. Et le stress est très nocif s'il est trop poussé pour nous aussi. Donc, il faut arriver à se déstresser. Un jeu de pétanque, pour peu qu'il y ait en plus... on réfléchisse ensemble comment on peut le verdir. C'est quelque chose d'extraordinaire pour le bien-être humain, là, j'en suis convaincu, mais je ne suis pas totalement impartial sur la pétanque.
Stéphane Henrault, du coup on a donc tout de même des enjeux où il y a un rapport de médiation, où c'est des éléments de nature qui sont présents dans la ville, mais on n'est pas sur des enjeux, disons, de sauvegarde et de défense de la biodiversité. On est bien sur des enjeux de buen vivir, de bien-être. Comment fait-on pour se reporter sur les enjeux de sauvegarde de la biodiversité, c'est-à-dire cette grande nature aux portes des villes, type le parc national des Calanques, par exemple? Et Stéphane, vous disiez aussi en préparation de cette émission, au fond, vous êtes pour une loi très dure qui, d'une certaine manière, reconnaisse Gaïa comme sujet juridique et qui serait en capacité de protéger ces espaces.
Oui, effectivement, moi je pense que il y a un habitant de la Terre et de nos villes qui n'a pas de voix en tant que sujet. Effectivement, l'objet naturel, non pas au sens de la biodiversité, mais de cet être vivant qui nous accompagne, que l'on voit tous les jours et qui nous rassérène. Quand je travaille avec mes étudiants de l'école d'archi, par exemple en ce moment sur le Frioul, on a réellement positionné parmi les habitants les développeurs qui voudraient construire le parc national, la nature en tant qu'interlocuteur, débatteur des stratégies de projet que l'on imagine pour le Frioul. Donc faire exister la nature dans la loi, ça me semble aujourd'hui quelque chose de nécessaire et pas seulement dans l'ordre d'une protection.
Et y compris, du coup, la défendre, comme par exemple, on le voit à Sivens, la défendre lorsque les politiques sont finalement sur des projets décalés par rapport aux enjeux d'aujourd'hui.
Oui, alors il y a nature et agriculture dans ce cas-là. Non, moi je pense qu'il y a effectivement un décalage qui peut se faire dans le temps, parce que ce genre de projet, Sivens, il est conçu à un moment donné, et puis le contexte évolue, et on s'aperçoit que les besoins en eau, etc., sont plus les mêmes que ce qui avait été prévu au départ, tout simplement parce que les agriculteurs ont eux-mêmes changé de type de culture pour éviter de consommer de l'eau. Donc, par exemple, ça c'est intéressant, et moi je pense qu'effectivement, il y a des positions citoyennes qui sont nécessaires pour réactiver des débats sur des choses qui semblent acquises à un moment donné et dont aujourd'hui on a la légitimité à se reposer la question. Maintenant, je tiens à préciser que je suis pour des positions, on va dire, non violentes, c'est-à-dire que j'adhère à la stratégie, et je les soutiens volontiers, à la stratégie qui consiste à alerter, mais je suis plutôt dans une position de type Gandhi par rapport à l'événement et au rapport de force que dans une position de type casqué, cagoulé.
Je suis né dans les chantiers japonais. En vérité, j'appartiens aux Américains. Une filiale d'une compagnie navale dont j'ai oublié l'adresse à Los Angeles. De pétrole brut, 120 000 tonnes. Dans le Torrigan Gap, le Torrigan Gap. Au Bermude.
Stéphane Enro, vous disiez oui, je pense qu'il faut trouver quelque chose des méthodes d'action de Gandhi. Mais on entend Gainsbourg, là, une 120 000 tonnes de brut déversées comme ça dans le canyon. Nous sommes quand même dans une société où il y a des intérêts financiers immenses. Et donc aussi, comment faire pour résister à ces pressions-là? Et il y a un mot qui a circulé, j'ai cru comprendre, dans votre journée de discussion, qui était finalement le mot négociation. Alors c'est par la négociation qu'on va sortir par le haut? Bernard, Thierry, Stéphane, Bernard?
Non, mais déjà dans l'idée de négocier, pour moi ça implique une manière, comme on le fait pendant ces journées, de mettre à plat les choses à partir de l'ensemble des points de vue. Il n'y a pas un point de vue qui prédomine a priori comme ça. Donc ça, c'est déjà une forme de négociation extrêmement douce, alors pour revenir à Gandhi, extrêmement non-violente, et qui permet d'avancer vraiment, quoi.
Oui. Thierry,
ben, par essence, forcément, en tant qu'enseignant, moi, je prime toujours sur le côté derrière négociation, mettre l'explication, mettre l'éducation. Pour moi, c'est la base de tout. Bien sûr, je reste persuadé, exactement comme Stéphane, que par la violence, on n'obtient rien, ou en tout cas, rien de satisfaisant. En revanche, dans l'entêtement, dans le fait de se battre, mais avec intelligence, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin.
Stéphane, en rôle, la négociation alors?
Oui, je pense qu'il faut quelquefois, pour construire la négociation, affirmer des positions fortes. Et donc, quelquefois, il faut être effectivement en situation de bloquer un système pour que le système très puissant porté par l'argent soit à même de venir à une table de discussion. Voilà.
La journée avait pour titre « Ville, nature, on défriche, allégresse, désillusion et résilience ». Résilience, post-humanisme, résilience, post-humanisme, Thierry Dattoni.
Le mot n'est pas de moi là sur le titre. Alors le résilience en écologie, c'est quelque chose d'énorme. On travaille sans arrêt sur la résilience des systèmes, des écosystèmes. Mais justement, j'en profite pour me demander à mes collègues, qu'est-ce qu'ils y mettaient ce jour-là derrière résilience?
Bernard, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on met derrière résilience?
Non, c'est un mot à Stéphane.
Stéphane, pardon.
Non, mais c'est simplement le fait suivant, c'est qu'on a fait de la ville pendant tout le 19e et le 20e, avec une puissance de l'argent, de la machine, des technologies qui est incommensurable par rapport à ce qui avait été fait pendant les siècles précédents. Et que si la résilience, par le biais de questionnements qu'on peut se poser aujourd'hui sur les relations ville-nature, peut se faire pour guérir en quelque sorte ce que l'on s'est infligé à nous-mêmes et au milieu, je trouve que ça serait une bonne occasion d'y arriver, quoi.
Merci beaucoup à Bernard.
Non, mais j'allais dire que moi j'aimais aussi beaucoup le mot allégresse, et que si on se réfère au bon de vivre, on essaye de mettre de l'allégresse dans l'espace public, et c'est peut-être important aussi.
Voilà, c'est gentil, mais est-ce que des illusions comme...
La désillusion, c'est justement ceci que la biodiversité, hein, il faut pas...
C'est ce à quoi on essaye d'échapper, en fait.
Voilà, complètement.
Parfait, merci à vous tous d'être venus sur les ondes de Radio Grenouille. Nous avons parlé de cette journée de discussion qui avait pour titre de cet endroit, acte 2, ville, nature, on défriche, allégresse, désillusion et résilience, avec Thierry Tatoni, écologue, professeur à l'université Aix-Marseille, avec Bernard Misraki, archi-artiste, pardon, et Stéphane Enro, architecte enseignant à l'école d'université à l'école d'architecture de Marseille. Pardon. Vous retrouvez cette émission en podcast www.radiogrenouille.com.
Le 13h30.
Le 13h30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette, chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Faut que je sois dispo, quoi.
Ouais.
88.8 FM. Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.